Souvenirs, deuxième partie, adolescence, chapitre 32, la petite clé. Nous avions à peine eu le temps de dire bonjour à tous les invités qu'on annonça le dîner. Papa était très en train. Depuis quelque temps, il avait la veine et gagnait. Il donna à Lioubotchka, pour sa fête, un service de voyage en argent, et il se souvint, étant encore à table, qu'il avait aussi pour elle une bonbonnière, et il l'avait oubliée chez lui. Au lieu d'envoyer un domestique, « Vas-y plutôt, Coco, » me dit-il. « Les clés sont sur la grande table, dans la coquille, tu sais. Tu prendras la plus grosse, et tu ouvriras le deuxième tiroir à droite. Là, tu trouveras une petite boîte, des bonbons dans du papier, et tu apporteras le tout. » « Faut-il aussi t'apporter des cigares ?» demandai-je, sachant qu'il en envoyait toujours chercher après le dîner. « Oui, fais attention de ne toucher à rien chez moi » cria-t-il comme je m'éloignais. Je trouvai le trousseau de clés à l'endroit indiqué, et j'allais ouvrir le tiroir, lorsque l'envie me prit de savoir à quelle serrure allait une toute petite clé enfilée dans l'anneau. Sur la table, parmi 100 objets divers, se trouvait un portefeuille brodé, fermé avec un petit cadenas. Je voulus voir si la toute petite clé allait au petit cadenas. L'expérience eut un plein succès. Le portefeuille s'ouvrit, et j'y trouvai tout un tas de papiers. La curiosité me poussa si violemment à savoir ce qu'étaient ces papiers qu'elle étouffa la voix de la conscience. Je me mis à examiner le contenu du portefeuille. La vénération qu'éprouvent les enfants pour les grandes personnes était si robuste chez moi, en particulier pour papa, que mon esprit se refusait inconsciemment à tirer des conclusions de ce que j'avais sous les yeux. J'avais le sentiment que papa vivait dans une sphère supérieure et tout à fait à part, inaccessible et incompréhensible pour moi, et que je commettrais une sorte de sacrilège en essayant de pénétrer les secrets de sa vie. Les découvertes que je fis à l'improviste dans son portefeuille ne me laissèrent donc aucune impression nette, si ce n'est la conscience d'avoir mal fait. J'étais honteux et mal à l'aise. Je voulus refermer au plus vite le portefeuille, mais il était dit qu'en ce jour mémorable, j'aurais tous les malheurs. Ayant introduit la petite clé dans le trou de la serrure, je tournai dans le mauvais sens. Croyant avoir fermé, je tirai la clé et, oh horreur, le bout me resta dans la main. Je m'efforçai en vain de le rajuster à la moitié demeurée dans le cadenas et de faire sortir cette dernière par la vertu d'un sortilège quelconque. Il fallut m'habituer à l'affreuse pensée que j'avais commis un nouveau crime qui serait découvert quand papa rentrerait dans son cabinet. L'affaire de Mimi, le 1 et la petite clé, il ne pouvait plus rien m'arriver de pis. Grand-mère pour l'affaire de Mimi, Saint-Jérôme pour le 1, papa pour la petite clé. Et tout ça tombera sur moi pas plus tard que ce soir. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah, qu'ai-je fait? M'écriai-je à haute voix en allant et venant sur le tapis moelleux du cabinet. Et dis-je en moi-même en cherchant les bonbons et les cigares. « On n'évite pas sa destinée !» Je revins en courant. Cette sentence fataliste que j'avais entendue répéter dans mon enfance à Kolia exerçait sur moi, à toutes les minutes difficiles de ma vie, une influence bienfaisante et calmante. En rentrant dans la salle à manger, je me trouvai dans un état d'âme un peu troublé et pas très naturel, mais parfaitement gai. Chapitre 33. La perfide. Après le dîner, commencèrent les petits jeux, et j'y pris une part active. En jouant au chat et à la souris, je marchais, sans le faire exprès, par maladresse, sur la robe de la gouvernante des Kornakov, qui jouait avec nous, et je la déchirai. Je remarquai que toutes les filles, et Sonia en particulier, était ravie de l'air contrarié avec lequel la gouvernante alla recoudre sa robe dans la chambre des servantes. Je résolus de leur procurer une seconde fois ce plaisir. Dans cette aimable intention, dès que la gouvernante fut revenue, je me mis à galoper autour d'elle, en cherchant une occasion favorable pour accrocher sa jupe avec mon talon et la déchirer de nouveau. Sonia et les princesses avaient de la peine à s'empêcher de rire, ce qui flattait beaucoup mon amour-propre. Mais Saint-Jérôme remarqua mes manœuvres. Il s'approcha de moi et me dit en fronçant les sourcils, chose que je ne pouvais souffrir, que j'avais l'air de méditer des sottises, et que si je n'étais pas plus sage, il m'en ferait repentir, bien que ce fût jour de fête. Je me trouvais dans la situation d'agacement de l'homme qui a perdu plus qu'il n'avait dans sa poche, qui redoute le moment du règlement et qui continue à jouer en désespéré, sans aucun espoir de se rattraper, et simplement pour s'étourdir. Je souris insolemment et m'éloignai de Saint-Jérôme. Après le chat et la souris, l'un de nous organisa un jeu que nous appelions le long nez. On mettait les chaises sur deux rangs, l'un en face de l'autre, les dames et les cavaliers se formaient en deux camps, et l'on changeait de chaise en choisissant son partenaire. La dernière des princesses choisissait toujours le plus jeune des Yvines. Catherine choisissait tantôt Volodia, tantôt Iline. Sonia ne manquait jamais de choisir Serge, et à mon grand étonnement, elle ne parut pas du tout confuse quand Serge vint tout droit s'asseoir en face d'elle. Elle se mit à rire de son joli rire sonore et lui fit entendre par un signe de tête qu'il avait deviné juste. Moi, personne ne me choisissait. À ma profonde humiliation, je compris que j'étais de trop, que j'étais celui qui reste, et qu'on dirait toutes les fois « Qui reste-t-il encore ? Ah, c'est Nicolas, prends-le donc !» Je me déterminai donc, quand c'était à mon tour de traverser, à aller tout droit à ma sœur, ou à une des vilaines princesses. Et jamais, hélas, je ne me trompais. Sonia était tellement occupée de Serge Yvine que je n'existais pas pour elle. J'ignore sur quel fondement je la traitais en pensée de perfide, puisqu'elle ne m'avait jamais promis de me choisir et de ne pas choisir Serge. Mais j'étais fermement convaincue qu'elle se conduisait avec moi de la façon la plus horrible. Après le jeu, je remarquai que la perfide, que je méprisais, mais sans pouvoir en détacher mes yeux, s'en allait dans un coin avec Serge et Catherine. Ils se mirent à causer d'un air de mystère. Je m'approchai à pas de loup, caché par le piano, pour découvrir leur secret. Et voici ce que je vis. Catherine tenait un mouchoir de batiste par les deux coins, devant Serge et Sonia, de manière à les empêcher de voir. « Non, dit Serge, vous avez perdu. Payez à présent. » Sonia, debout devant lui, les bras pendants et l'air en faute, dit en rougissant « Je n'ai pas perdu, n'est-ce pas, mademoiselle Catherine ?»« J'aime la vérité, répliqua Catherine. Vous avez perdu votre pari, ma chère. » À peine Catherine avait-elle prononcé ces mots que Serge se pencha et embrassa Sonia. Il l'embrassa comme cela, tout simplement, sur ses petites lèvres roses. Et Sonia se mit à rire, comme si ce n'était rien, comme si c'était très amusant. Abomination ! Oh, l'hypocrite ! La perfide ! Chapitre 34. L'éclipse. Je ressentis tout à coup un profond mépris pour le sexe féminin en général, et pour Sonia en particulier. J'étais en train de me persuader que les petits jeux n'étaient pas du tout amusants, qu'ils étaient bons pour les filles, et j'avais une envie terrible de faire quelques bonnes farces de garçons, qui stupéfieraient tout le monde. L'occasion ne tarda pas à s'en présenter. Saint-Jérôme sortit de la chambre après une conversation avec Mimi. Ses pas résonnèrent d'abord dans l'escalier, puis juste au-dessus de notre tête, dans la direction de la classe. il me vint l'idée que Mimi lui avait raconté où elle m'avait trouvé pendant la leçon, et qu'il était allé regarder le cahier de notes. Dans ce temps-là, je ne soupçonnais pas à Saint-Jérôme d'autre but dans la vie que de chercher l'occasion de me punir. J'ai lu quelque part que les enfants de 12 à 14 ans, c'est-à-dire à l'âge de transition qui précède l'adolescence, sont enclins à l'incendie et même au meurtre. Quand je me souviens de mon adolescence, et en particulier de l'état d'esprit où je me trouvais en ce jour néfaste, je comprends très bien les crimes les plus atroces, commis sans but, sans intention de nuire, comme ça, par curiosité, par besoin inconscient d'action. Il y a des minutes où l'avenir apparaît à l'homme sous des couleurs si sombres que, de peur d'arrêter son regard sur cet avenir, l'esprit suspend totalement en lui-même l'exercice de la raison et s'efforce de se persuader qu'il n'y aura pas d'avenir et qu'il n'y a pas eu de passé. Dans ces minutes où la pensée ne contrôle plus chaque impulsion de la volonté et où les instincts matériels demeurent les seuls ressorts de la vie, je comprends l'enfant inexpérimenté qui, sans ombre d'hésitation ni de frayeur, avec un sourire de curiosité, allume et souffle le feu dans sa propre maison, où dorment ses frères, son père, sa mère, tous ceux qu'il aime tendrement. Sous l'influence de cette éclipse temporaire de la pensée, je dirais presque de cette distraction, un jeune paysan de 17 ans contemple le tranchant fraîchement aiguisé d'une hache près du banc où son vieux père dort, le nez en l'air. Soudain, il brandit sa hache, puis il regarde avec une curiosité hébétée comment, de la gorge coupée, le sang coule sous le banc. Sous l'influence de cette même éclipse de la pensée et de cette même curiosité instinctive, un homme éprouve une sorte de jouissance à se pencher sur le bord d'un précipice et à penser « si je me jetais ?» ou à appuyer sur son front un pistolet chargé et à penser « si je tirais ?» ou à considérer quelques personnages considérables devant lequel tout le monde fait la courbette et à penser « si j'allais le prendre par le nez en lui disant « viens-tu, mon bon ?» Sous l'influence d'un trouble intime semblable et d'un arrêt de la réflexion de ce genre, quand Saint-Jérôme redescendit et vint me dire de monter tout de suite, que je n'avais pas le droit de rester en bas après m'être aussi mal conduit et avoir aussi mal su ma leçon, je lui tirai la langue et déclarai que je ne m'en irais pas. Saint-Jérôme resta muet de surprise et de fureur. « C'est bien !» dit-il enfin en courant après moi. « Je vous avais déjà promis plusieurs fois une punition que votre grand-mère aurait voulu vous épargner. Mais je vois bien qu'il n'y a que les verges pour vous forcer à obéir, et vous venez de les mériter en plein. » Il parlait si haut que tout le salon l'entendit. Le sang reflua à mon cœur avec une violence extraordinaire. Je le sentais battre très fort. Je sentais que j'étais devenu tout pâle et que mes lèvres tremblaient malgré moi. Je devais être effrayant à voir en cet instant, car Saint-Jérôme marcha rapidement sur moi et me saisit par le bras en évitant mon regard. À peine sentis-je son étreinte que je ne me connus plus. Hors de moi, de rage et ne sachant plus ce que je faisais, je me dégageais et le frappais de toutes mes forces. Volodia s'approcha de moi avec une expression de frayeur et d'étonnement. « Qu'est-ce qui te prend ? » me dit-il. « Laisse-moi ! » criai-je à travers mes sanglots. « Personne de vous ne m'aime. Vous ne comprenez pas combien je suis malheureux. Vous êtes tous dégoûtants. Vous me faites tous horreur. » ajoutai-je dans une sorte de délire en m'adressant à toute la compagnie. Pendant ce temps, Saint-Jérôme, le visage blême et résolu, s'était rapproché de moi. Avant que je pusse me mettre en défense, il me saisit brusquement les deux mains comme dans un étau et m'entraîna. La tête me tournait d'émotion. Je me rappelle seulement que je me débattais en désespéré et que je donnais des coups de tête et des coups de pied tant qu'il me resta des forces. Je me rappelle aussi que mon nez donna plusieurs fois sur des jambes, qu'un pan d'habit m'entra dans la bouche, que j'entendais des pieds tout autour de moi, que j'avalais de la poussière et que ça sentait la violette, le parfum de Saint-Jérôme. 5 minutes après, la porte du cabinet noir se refermait sur moi. « Vassili !» dit-il en dehors d'une voix hideuse et solennelle. « Apporte-moi les verges !» Chapitre 35. Rêverie. Pouvais-je penser, dans ce temps-là, que je survivrais à tant de malheurs et qu'il viendrait un temps où j'en parlerais de sang-froid? En songeant à ce que j'avais fait, je ne pouvais pas me représenter ce que j'allais devenir, mais j'avais le sentiment vague que j'étais irrévocablement perdu. Au premier moment, un silence profond régna autour de moi. Du moins, je me le figurais, la violence de mon émotion m'empêchant sans doute d'entendre. Peu à peu, je commençais à distinguer différents sons. Vassili monta, jeta dans le coin de la fenêtre un objet qui devait ressembler à un balai et s'étendit en bâillant sur une banquette. En bas, Saint-Jérôme parlait très haut. Il parlait évidemment de moi. Puis j'entendis des voix d'enfants, des rires, des courses. Au bout de quelques minutes, toute la maison était de nouveau en mouvement, comme si personne ne savait que j'étais dans le cabinet noir, ou comme si personne n'y pensait. Je ne pleurais pas, mais j'avais comme une grosse pierre sur le cœur. Les idées et les images se succédaient avec rapidité dans mon imagination surexcitée, mais le souvenir de mon malheur venait continuellement interrompre leur chaîne capricieuse, et je retombais dans un labyrinthe sans issue d'incertitude, de terreur et de désespoir. Tantôt il me venait à l'esprit qu'il devait exister une cause inconnue à l'indifférence, ou plutôt à la haine que j'inspirais universellement. À cette époque-là, j'étais fermement convaincue que tout le monde, depuis ma grand-mère jusqu'au cocher Philippe, me détestait et avait du plaisir à me voir souffrir. Probablement, je n'étais pas le fils de ma mère et de mon père, ni le frère de Volodia. J'étais quelque malheureux orphelin, un enfant trouvé, ramassé par pitié. Cette idée absurde me parut tout à fait vraisemblable et me causa une sorte de consolation mélancolique. J'éprouvais un soulagement à penser que j'étais malheureux, non par ma faute, mais parce que ma destinée était d'être malheureux dès ma naissance, comme cet infortuné Karl Ivanovitch. Mais pourquoi me cacher ce mystère, me disais-je, quand je l'ai presque deviné à moi tout seul? Demain j'irai trouver papa et je lui dirai « Papa, c'est en vain que tu me caches le secret de ma naissance. Je sais tout. » Il me répondra « Que veux-tu, mon ami? Il fallait bien que tu l'apprisses tôt ou tard. Tu n'es pas mon fils. » Mais je t'ai adopté, et si tu te montres digne de ma tendresse, je ne t'abandonnerai jamais. » Et moi, je répondrai « Papa, bien que je n'ai pas le droit de te donner ce nom et que je le prononce aujourd'hui pour la dernière fois, je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Je n'oublierai jamais que tu es mon bienfaiteur, mais je ne puis rester plus longtemps dans ta maison. Ici, personne ne m'aime. Et Saint-Jérôme a juré ma perte. Il faut que lui ou moi nous sortions d'ici, car je ne réponds pas de moi. Je hais cet homme à un tel point que je suis capable de tout. Je le tuerai. » Voici comment je dirais « Papa, je le tuerai !» Alors papa se mettra à me supplier, mais je dirai « Non, mon ami, mon bienfaiteur, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Laisse-moi partir. » Et je le serrerai dans mes bras, et je lui dirai en français « Oh, mon père, oh, mon bienfaiteur, donne-moi pour la dernière fois la bénédiction, et que la volonté de Dieu soit faite. » À cette pensée, je sanglote, assis sur une malle dans le cabinet noir. Tout à coup, l'idée de la punition ignominieuse qui m'attend me revient à la mémoire. Je vois la réalité sous son vrai jour, et mes rêves s'envolent. Tantôt je rêve que je suis libre et hors de notre maison. J'entre dans les hussards et je vais à la guerre. Je suis entouré d'ennemis, je brandis mon sabre et j'en tue un. Je fais le moulinet et j'en tue deux, trois. À la fin, exténué de fatigue et épuisé par mes blessures, je tombe en criant « Victoire !» Le général me cherche en disant « Où est-il notre sauveur ?» On lui dit « Le voilà !» Et il se jette à mon cou en versant des larmes de joie et en criant « Victoire !» Je guéris de mes blessures et je me promène sur le boulevard Tverskoye, le bras en écharpe dans un foulard noir. Je suis général. L'empereur passe et demande qui est ce jeune blessé. On lui dit que c'est le célèbre héros Nicolas. L'empereur m'aborde et dit « Je te remercie, je t'accorderai tout ce que tu me demanderas. » Je salue respectueusement et je dis en m'appuyant sur mon sabre « Je suis heureux, grand prince, d'avoir pu verser mon sang pour ma patrie, et je voudrais mourir pour elle. Mais puisque tu daignes m'autoriser à t'adresser une requête, je ne te demande qu'une chose. Permets-moi d'anéantir mon ennemi, l'étranger Saint-Jérôme. Je veux anéantir mon ennemi Saint-Jérôme. » Je vais trouver Saint-Jérôme et je lui dis d'un ton terrible « Tu as fait mon malheur, à genoux !» Soudain, je pense qu'à tout instant peut entrer Saint-Jérôme en chair et en os, avec les verges, et je me revois non plus général et sauvant la patrie, mais pleurant, humilié, la plus misérable de toutes les créatures. Une autre fois, je pense à Dieu et je lui demande hardiment pourquoi il me punit. Je n'ai jamais oublié de faire ma prière matin et soir. Pourquoi est-ce que je souffre? Je puis vraiment dire que je fis ce soir-là le premier pas vers les doutes religieux qui me troublèrent pendant mon adolescence. Non pas que l'adversité m'ait poussé au murmure et à l'incrédulité, mais parce que l'idée que la Providence était injuste m'étant venue, pendant le désordre moral qui marqua mes 24 heures d'isolement, ce fut comme le grain qui tombe en terre après la pluie et qui germe aussitôt. Je m'imaginais aussi que j'allais certainement mourir, et je me représentais avec vivacité la surprise de Saint-Jérôme, entrant dans le cabinet noir et trouvant mon corps inanimé. Je me souviens de ce que m'avait raconté Nathalie Savishna sur l'âme des morts, qui restent dans leur maison pendant 40 jours, et je me voyais, errant, invisible, dans la maison de grand-mère, et assistant aux larmes sincères de Lioubotchka, aux lamentations de grand-mère et à la conversation de papa avec Saint-Jérôme. C'était un excellent petit garçon, disait papa les larmes aux yeux. Oui, répondait Saint-Jérôme, mais un fameux polisson. Vous devriez respecter les morts, disait papa. Vous êtes cause de sa mort. Vous l'avez effrayé. Il n'a pas pu supporter l'humiliation que vous lui prépariez. Hors d'ici, méchant !» Et Saint-Jérôme tombait à genoux, pleurait et demandait pardon. Le 40e jour, mon âme s'envolait au ciel. J'y voyais quelque chose de blanc, long, transparent, merveilleusement beau, et je devinais que c'était ma mère. Ce blanc m'entoure et me caresse, mais j'éprouve un malaise et je ne la reconnais pas. « Si c'est vraiment toi, lui dis-je, montre-toi mieux pour que je puisse t'embrasser. » Et sa voix me répond « Ici, nous sommes tous ainsi et je ne peux pas t'embrasser mieux. Est-ce que tu n'es pas bien comme cela ?»« Si, je suis très bien, mais tu ne peux pas me chatouiller et je ne peux pas baiser tes mains. » « Ce n'est pas nécessaire, dit-elle. C'est si beau ici. » Je sens que c'est en effet bien beau, et nous volons ensemble plus haut, toujours plus haut. Ici, je fais un petit somme. Et en me réveillant, je me retrouve assis sur ma malle, dans le cabinet noir, les joues humides de pleurs, et répétant machinalement les mots « Nous volons plus haut, toujours plus haut ». Je fais des efforts acharnés pour voir clair dans ma situation, mais j'ai beau tendre mon esprit, je ne vois que ténèbres et effroi. J'essaie de revenir aux rêves heureux et consolants interrompus par le retour à la réalité. Mais j'ai beau me hâter de ressaisir le fil, je constate avec surprise qu'il m'est impossible de le renouer, et même, ce qui est encore plus étonnant, que cela ne me ferait plus aucun plaisir. Chapitre 36. À force d'aller mal, tout ira bien. Je passai la nuit dans le cabinet noir sans voir personne. Le lendemain, qui était un dimanche, on vint me chercher pour me conduire dans une petite chambre attenant à la classe, où l'on m'enferma de nouveau. Je commençais à espérer que ma punition se bornerait à la prison, et mes idées s'apaisaient sous l'influence d'un bon sommeil réparateur, du beau soleil qui se jouait sur les fleurs de glace des carreaux et du bruit familier de la rue. La solitude m'était néanmoins très pénible. J'aurais voulu remuer, raconter à quelqu'un tout ce qui s'était amassé dans mon âme, et pas une créature vivante à qui parler. Cette situation me semblait d'autant plus désagréable que je ne pouvais pas m'empêcher, quelque insupportable que cela me fût, d'entendre saint Jérôme siffler des airs gais, comme si de rien n'était, en allant et venant dans sa chambre. J'étais absolument convaincu qu'il n'avait pas le moins du monde envie de siffler, et qu'il le faisait uniquement pour me tourmenter. À 2 heures, saint Jérôme et Volodia descendirent, et Kolia m'apporta à dîner. Je causai avec lui de ce que j'avais fait et de ce qui m'attendait. Il me dit « Eh, monsieur, ne vous tourmentez pas, à force d'aller mal, tout ira bien. » Ce proverbe, qui a soutenu bien souvent mon courage dans la suite, me consola un peu. Néanmoins, le fait qu'on ne m'avait pas envoyé du pain sec et de l'eau, mais tout un dîner et même un gâteau, un biscuit, me donnait fort à penser. Si l'on ne m'avait pas envoyé ce gâteau, cela aurait voulu dire que ma punition était la prison. Puisqu'on m'envoyait un gâteau, c'est que je n'étais pas encore puni, qu'on m'avait seulement éloigné des autres, comme une créature malfaisante, et que la punition m'attendait encore. Tandis que j'étais absorbé dans la solution de ce problème, la clé tourna dans la serrure de mon cachot, et saint Jérôme apparut, la figure pincée et officielle. « Venez chez votre grand-mère, » dit-il sans me regarder. Avant de sortir, je voulus nettoyer la manche de ma veste qui était pleine de blanc. Saint Jérôme me dit que c'était tout à fait inutile, comme si j'étais déjà dans une situation morale tellement déplorable que ce n'était plus la peine de m'occuper de mon extérieur. Quand nous traversâmes la salle, saint Jérôme me tenant par le bras, Catherine, Lioubotchka et Volodia me regardèrent, exactement du même air dont nous regardions la chaîne des forçats qui passait tous les lundis sous nos fenêtres. Et quand je m'approchais du fauteuil de grand-mère pour lui baiser la main, elle se détourna et cacha sa main sous son mantelet. « Oui, mon cher, » dit-elle après un assez long silence pendant lequel elle me toisait de la tête aux pieds avec un regard tel que je ne savais où mettre mes yeux et mes mains. « Je peux dire que vous récompensez bien ma tendresse, et que vous êtes pour moi une vraie consolation. « Monsieur Saint-Jérôme, » continua-t-elle en appuyant sur chaque mot, « qui avait consenti sur ma prière à se charger de votre éducation, refuse à présent de rester dans ma maison. Pourquoi ? À cause de vous, mon cher. » Elle se tut un instant et reprit d'un ton indiquant que son discours était préparé depuis longtemps. « J'espérais que vous lui seriez reconnaissant de ses soins et de ses peines. Et voilà que vous, blanc-bec, mauvais gamin, vous osez lever la main sur lui. À merveille, c'est parfait. Je commence aussi à croire que vous êtes incapable de comprendre ce qu'est le savoir-vivre, qu'il faut avec vous d'autres moyens, des moyens bas. Demande tout de suite pardon. » ajouta-t-elle durement et d'un ton d'autorité en me montrant Saint-Jérôme. « Tu m'entends ?» Je suivis la direction du doigt de grand-mère et, ayant aperçu au bout le pan d'habit de Saint-Jérôme, je me détournai et demeurai immobile, le cœur comme mort. « Allons, vous n'entendez pas ce que je vous dis ?» Je tremblais des pieds à la tête, mais je ne bougeais pas. « Coco !» s'écria grand-mère, qui s'aperçut probablement de mes angoisses. « Coco !» répéta-t-elle d'une voix adoucie et presque tendre. « Comment, c'est toi ?»« Grand-mère, pour rien au monde, je ne lui demanderai pardon. » Je m'interrompis subitement, sentant que, si j'ajoutais un seul mot, je ne pourrais pas retenir les larmes qui m'étouffaient. « Je te l'ordonne, je t'en prie, qu'est-ce que tu as ?»« Je ne veux pas, je ne peux pas. » Les sanglots accumulés dans ma poitrine s'échappèrent, et l'orage creva. « C'est ainsi que vous obéissez à votre grand-mère, » s'écria Saint-Jérôme d'une voix tragique. « C'est ainsi que vous reconnaissez ses bontés. À genoux !» « Mon Dieu, si elle voyait cela !» dit grand-mère en se détournant de moi et en essuyant ses larmes. « Si elle voyait, il vaut mieux qu'elle n'y soit plus. Elle ne supporterait pas ce chagrin-là. Elle ne le supporterait pas. » Et grand-mère pleurait de plus en plus fort. Je pleurais aussi. Mais il ne me venait pas à l'idée de demander pardon. « Tranquillisez-vous, au nom du ciel, madame la comtesse !» dit Saint-Jérôme. Mais grand-mère ne l'écoutait plus. Elle cacha son visage dans ses mains, et ses sanglots se transformèrent promptement en hoquets et en attaques de nerfs. Mimi et Gacha se précipitèrent dans la chambre avec des figures effrayées. Il se répandit dans la chambre une odeur de sel, et toute la maison se remplit soudain de bruits de pas et de chuchotements. « Jouissez de votre œuvre, » me dit Saint-Jérôme en me reconduisant en haut. « Seigneur, » pensai-je, « qu'ai-je fait ? Quel affreux criminel je suis !» À peine Saint-Jérôme fut-il redescendu, après m'avoir dit d'aller dans ma chambre, que je me précipitais, sans savoir pourquoi ni ce que je faisais, dans le grand escalier conduisant à la rue. Voulais-je fuir toutes les personnes de la maison ? Où allait me noyer? Je ne m'en souviens pas. Je sais seulement que j'avais mis mes mains sur ma figure pour ne voir personne et que je descendais l'escalier en courant. « Où vas-tu ? » demanda tout à coup une voix bien connue. « Viens ici, j'ai besoin de toi, mon petit. » Je voulus passer devant lui, mais papa me saisit par le bras et dit sévèrement « Viens avec moi. » Il m'entraîna dans le petit divan. « Comment as-tu osé toucher à mon portefeuille dans mon cabinet ? Hein ? Tu ne dis rien ? Hein ?» Il me prit l'oreille. « J'ai eu tort, » dis-je. « Je ne sais pas moi-même ce qui m'a pris. »« Ah, tu ne sais pas ce qui t'a pris. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. » répétait-il en me tirant l'oreille à chaque mot. « Mettras-tu encore ton nez dans ce qui ne te regarde pas ? Le mettras-tu ? Le mettras-tu ? » Bien que mon oreille me fît très mal, je ne pleurais pas. J'éprouvais un bien-être moral. Dès que papa m'eut lâché, je saisis sa main et la couvris de baisers. « Bats-moi encore ! » lui dis-je en pleurant. « Bats-moi plus fort ! Fais-moi plus mal ! Je suis un misérable, un scélérat, un malheureux. » « Qu'est-ce que tu as ? » demanda-t-il en m'écartant légèrement. « Non, je ne veux pas, je n'irai pas !» criai-je en me cramponnant à son habit. « Tout le monde me déteste, je le sais bien, mais je t'en supplie, écoute-moi. Protège-moi ou chasse-moi de la maison. Je ne peux pas vivre avec lui. Il est toujours à essayer de m'humilier. Il veut que je me mette à genoux devant lui. Il veut me donner le fouet. Je ne peux pas le supporter. Je ne suis plus tout petit. Je ne peux pas. J'en mourrai. Je me tuerai. Il a dit à grand-mère que j'étais un vaurien. Elle en est malade. Je l'aurais fait mourir. Au nom de Dieu, bats-le. Pourquoi me tourmente ? » J'étouffais, incapable de dire un mot de plus. Je m'assis sur le divan, je laissai tomber ma tête sur les genoux de papa et sanglotai de telle sorte qu'il me semblait que j'allais expirer sur la place. « À qui en as-tu ? » dit papa d'un ton de compassion en se penchant sur moi. « Il est mon tyran, mon bourreau. J'en mourrai, personne ne m'aime. » Je prononçai ces mots à grand-peine et je fus pris de convulsions. Papa me prit dans ses bras et me porta dans ma chambre à coucher. Je m'endormis. Quand je m'éveillai, il était déjà tard. Une seule bougie brûlait à côté de mon lit. Notre médecin, Mimi et Lioubotchka étaient assis dans la chambre. On lisait sur leurs figures qu'ils étaient inquiets de ma santé. Je me sentais si bien, après un somme de 12 heures, que j'aurais à l'instant sauté hors de mon lit s'il ne m'avait été désagréable de les troubler dans l'idée que j'étais très malade. Je ne fus pas puni. Personne ne fit même allusion à ce qui s'était passé. Mais je ne pouvais pas oublier tout ce que j'avais ressenti pendant ces 2 jours de désespoir, de honte, de terreur et de haine. Car c'était réellement un sentiment de haine. Non pas de cette haine dont on parle dans les romans et à laquelle je ne crois pas. La haine qui trouve une jouissance à faire du mal à quelqu'un. Non, c'était la haine qui vous inspire une aversion invincible pour un homme, estimable du reste, qui vous fait prendre en horreur ses cheveux, son port de tête, le son de sa voix, toute sa personne, tous ses mouvements, et qui, en même temps, vous attire à lui par une force mystérieuse et vous contraint à suivre ses moindres gestes avec une attention inquiète. Tel était le sentiment que j'éprouvais pour Saint Jérôme. Il m'était horriblement pénible d'avoir avec lui un rapport quelconque. Chapitre 37. La chambre des servantes. Je me sentais de plus en plus isolée, et mon principal plaisir consistait en rêvasserie solitaire. Je parlerai dans le chapitre suivant de leur sujet. Elles avaient pour théâtre préféré la chambre des servantes, où se déroulait un roman qui m'intéressait et m'émouvait au plus haut degré. Il va sans dire que l'héroïne de ce roman était Macha. Elle était éprise de Vassili, qu'il avait connu avant qu'elle fût chez nous, et lui avait promis à cette époque de l'épouser. Le sort les avait réunis de nouveau après une séparation de 5 années, dans la maison de ma grand-mère, mais c'était pour opposer un obstacle à leur passion mutuelle en la personne de Kolia, le propre oncle de Macha. Kolia ne voulait pas entendre parler d'un mariage entre sa nièce et Vassili, qu'il traitait d'homme sans bon sens et effréné. L'effet de son opposition fut que Vassili, jusque-là assez froid et peu empressé, s'enflamma tout à coup pour Macha, comme est seul capable de s'enflammer un tailleur serre, à chemise rose et à cheveux pommadés. Les manifestations de cet amour étaient extrêmement bizarres et sottes. Par exemple, lorsqu'il rencontrait Macha, il tâchait toujours de lui faire du mal. Il la pinçait, il lui donnait une claque, il la serrait si fort qu'elle manquait d'étouffer. Sa passion n'en était pas moins sincère, et il le prouva, lorsqu'il fut refusé définitivement par Kolia, en se mettant à boire de désespoir, à courir les cabarets, à faire du tapage, bref, à se conduire si mal, qu'il se fit plus d'une fois honteusement mettre au violon par la police. Ses manières de faire et leurs conséquences avaient l'air d'être des mérites aux yeux de Macha et d'augmenter son amour. Quand Vassili était sous clé, les yeux de Macha ne séchaient pas. Elle pleurait des journées entières en se plaignant de son sort amer à Gacha, qui était très compatissante pour les amoureux malheureux. Et elle se sauvait en cachette à la police, bravant les criailleries et les coups de son oncle pour voir son ami et le consoler. Ne vous indignez pas, lecteur, de la société dans laquelle je vous conduis. Si les cordes de la sympathie et de l'amour ne se sont pas distendues dans votre âme, elles trouveront de quoi résonner jusque dans la chambre des servantes. Qu'il vous plaise ou non de me suivre, je m'en vais sur le palier de l'escalier, d'où je peux voir tout ce qui se passe dans la chambre des servantes. Voici le poêle sur lequel sont les fers à repasser, la poupée de carton à qui il manque le nez, le baquet et la cruche d'eau. Voilà la fenêtre où traîne pêle-mêle un petit morceau de cire, un écheveau de soie, un débris de concombre et une boîte à bonbons. Voilà la grande table rouge sur laquelle une brique recouverte d'indienne sert à maintenir l'extrémité de la couture commencée et devant laquelle elle est assise. Elle a la robe que j'aime tant en cotonnade rose et son fichu bleu de ciel attire tout particulièrement mon attention. Elle coud. Elle s'arrête de temps en temps pour se gratter la tête avec son aiguille ou pour arranger la chandelle. Et moi, je regarde et je pense. Pourquoi n'est-elle pas née demoiselle, avec ses yeux bleus brillants, cette énorme natte blonde et cette belle poitrine? Comme il lui sierait bien d'être dans le salon avec un petit bonnet à ruban rose et un peignoir en soie rouge. Pas des peignoirs comme on a Mimi, mais comme j'en ai vu boulevard Tverskoe. Elle broderait au métier, je la regarderais dans la glace, et elle aurait beau ne pas vouloir, je ferai tout pour elle. Je lui donnerai son manteau, je lui servirai à manger. Ce Vassili est-il assez dégoûtant avec sa figure d'ivrogne et son paletot étriqué sur sa chemise rose et sale? Dans chacun de ses mouvements, dans chaque courbe de son dos, je crois voir le signe indubitable du châtiment honteux qu'il atteint. « Quoi, c'est encore Vassia ?» dit Macha sans lever la tête, en piquant son aiguille dans sa pelote. « Eh bien, quoi ?» répond Vassili. « Y a-t-il quelque chose de bon à attendre de lui? Je suis décidé, et si je me perds, ce sera tout par sa faute. »« Voulez-vous du thé ?» demande Nadioja, une autre femme de chambre. « Je vous remercie humblement. Et pourquoi est-ce qu'il me déteste, ton brigand d'oncle? Parce que j'ai un vrai habit à moi. Parce que je suis fort. À cause de ma manière de marcher. Et... » conclut Vassili en agitant les mains. « Il faut être obéissant, » dit Macha en coupant son fil avec ses dents. « Et vous, vous êtes toujours à... Mais je ne peux pas, voilà !» À cet instant, on entendit fermer bruyamment une porte dans la chambre de grand-mère et la voix hargneuse de Gacha monta l'escalier. « Qu'elle y aille elle-même si elle ne sait pas ce qu'elle veut! C'est une vie de galérien! Que Dieu me pardonne !» marmotta-t-elle en agitant les mains. « Mais respect à Agathe Mikhailovna !» lui dit Vassili en se levant. « Tiens, vous voilà à vous. Je ne te présente pas mes respects, » répond-elle en le regardant d'un air menaçant. « Qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que c'est la place d'un homme ?»« Je venais m'informer de votre santé, » réplique timidement Vassili. « Je suis en train de crever, voilà ma santé !» hurle Agathe Mikhailovna, toujours furieuse. Vassili se met à rire. « Il n'y a pas de quoi rire, et si je te dis de décamper, file, regardez-moi ce salaud, et ça veut se marier, veux-tu bien décamper ?» Agathe Mikhailovna passa dans sa chambre en tapant des pieds et ferma la porte si fort que les vitres tremblèrent. On l'entendit pendant longtemps à travers la cloison invectiver tout et tout le monde, maudire la vie qu'elle menait, mettre tout sang dessus dessous et tirer les oreilles à son chat favori. Enfin, la porte s'entrebâilla et le chat, lancé par la queue, vola au milieu de la chambre en poussant des miaulements lamentables. « Je vois que le thé sera pour une autre fois, » murmura Vassili. « Au revoir. » « Ça ne fait rien, » dit Nadioja en clignant de l'œil. « Je vais regarder au samovar. »« Je veux en finir, » poursuivit Vassili, qui se rapprocha de Macha. À peine Nadioja fut-elle hors de la chambre. « Ou bien j'irai tout droit à la comtesse, je lui dirai. « Voilà ce que c'est. Ou bien je plante tout là, et ma foi, je me sauve au bout du monde. Et moi, tu me laisseras là ? Ça me fait de la peine, seulement à cause de toi. Sans ça, il y a beau temps, ma foi, que ce serait fait. Vassia, pourquoi est-ce que tu ne m'apportes pas tes chemises à repasser ? Fit Macha après un instant de silence. Est-elle noire ? Ajouta-t-elle en le prenant par son col de chemise. On entendit en bas la sonnette de grand-mère et Gacha ressortit de sa chambre. « Qu'est-ce que tu veux, vilingueux ? » dit-elle en poussant Vassili qui s'était levé précipitamment vers la porte. « Tu la tracasses. On voit que ça t'amuse de l'avoir pleuré, espèce de va-nu-pied. File, qu'on ne te revoie pas ici. Qu'est-ce que tu lui trouves donc de beau ? » continua-t-elle en s'adressant à Macha. « Tu n'as pas reçu assez de coups de ton oncle à cause de lui ? Toujours ! Je ne me marierai qu'avec Vassili Kronski. Imbécile. Je ne me marierai qu'avec lui. Je n'aime que lui, quand on devrait me battre à en mourir. Dit Macha, en fondant subitement en larmes. Je la contemplais longtemps. Assise sur un coffre, elle pleurait, et elle s'essuyait les yeux avec son fichu. Et moi, je m'efforçais de découvrir ce qu'elle pouvait trouver de séduisant dans Vassili. J'avais beau m'y prendre de toutes les façons, il m'était impossible, malgré la compassion sincère que m'inspirait son désespoir, de comprendre comment une créature aussi ravissante pouvait aimer Vassili. « Quand je serai grand, » me disais-je en retournant à la classe, « Petrovskoé sera à moi, et Vassili et Macha seront mes serfs. Je serai assis dans le cabinet et je fumerai ma pipe. » Macha traversera la cuisine en tenant un fer à repasser. Je dirai « Envoyez-moi, Macha !» Elle entrera. Nous serons seuls. Tout à coup, Vassili entre. En apercevant Macha, il crie « Mon petit pigeon est perdu !» Et Macha se met à pleurer. Mais je dis « Vassili, je sais que tu l'aimes et qu'elle t'aime. Voilà 1000 roubles pour toi. Épouse-la et sois heureux. » Et je m'en irai dans le divan. Parmi les innombrables idées et rêvasseries sans suite qui traversent notre esprit, il s'en trouve qui y laissent des sillons profonds. C'est au point que souvent vous avez oublié en quoi consistait au juste votre idée, mais vous vous rappelez que c'était une bonne journée, vous en ressentez les effets et vous voudriez la retrouver. Il me resta dans l'âme un de ces sillons. Après avoir eu l'idée de sacrifier mon inclination au bonheur de Macha, puisqu'elle ne pouvait être heureuse qu'avec Vassili. Chapitre 38 Adolescence. On aura peine à me croire lorsque je dirai quels étaient mes sujets de réflexion favoris à l'époque de mon adolescence. Tant ils étaient peu en rapport avec mon âge et ma manière d'être. Mais, à mon sens, le contraste entre mon apparence extérieure et mon activité morale sera précisément le meilleur signe que je fais un portrait fidèle. Pendant toute une année, je vécus dans un isolement moral absolu, enfoncé en moi-même. Les questions abstruses de la destinée humaine, de la vie future et de l'immortalité de l'âme se présentaient déjà à moi, et ma débile intelligence d'enfant travaillait avec toute l'ardeur de l'inexpérience à éclaircir ces grands problèmes que le génie humain, dans ses plus grands efforts, arrive seulement à poser sans parvenir à les résoudre. Il me semble que chaque individu, dans son développement intellectuel, repasse par les mêmes routes qui ont été suivies par les générations successives, que les idées formant le fondement des diverses théories philosophiques font partie intégrante de l'esprit humain, et que chaque homme en a eu conscience plus ou moins nettement, avant même de savoir qu'il existait des théories philosophiques. Ces réflexions s'imposaient à mon esprit avec tant de force et de vivacité que je cherchais à les appliquer à la vie, me figurant que j'avais découvert le premier des vérités si importantes et si utiles. Un jour, il me vint à la pensée que le bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la façon dont nous les prenons, qu'un homme accoutumé à supporter la douleur ne peut pas être malheureux. Et, afin de m'accoutumer à la peine, je m'exerçais, malgré des douleurs atroces, à tenir un dictionnaire à bras tendu pendant 5 minutes. Ou bien je m'en allais dans le grenier, je prenais des cordes, et je me donnais la discipline sur mon dos nu, avec tant de vigueur que les larmes me jaillissaient involontairement des yeux. Une autre fois, réfléchissant tout à coup que la mort nous guette à toutes les heures, à toutes les minutes de notre vie, je décidai que l'homme ne pouvait être heureux qu'à la seule condition de jouir du présent et de ne pas songer à l'avenir. Je ne concevais pas comment on n'avait pas encore compris cela. Et pendant 3 jours, sous l'influence de cette idée, je plantai là mes leçons et passai mon temps étendu sur mon lit, m'amusant à lire un roman ou à manger du pain d'épices acheté avec le reste de mon argent. Une autre fois encore, j'étais debout devant le tableau noir et je traçais des figures de géométrie avec de la craie. Je fus subitement frappé par cette idée. Pourquoi la symétrie est-elle agréable à l'œil? Qu'est-ce que la symétrie? Je me répondis, c'est un sentiment inné. Mais sur quoi est-il fondé? Est-ce que dans la vie tout est symétrique? Au contraire. Voici la vie. Je traçais un ovale. À la mort, l'âme passe dans l'éternité. Voilà l'éternité. Je menai une ligne de l'ovale au bord du tableau. Pourquoi n'y a-t-il pas une ligne semblable de l'autre côté de la figure? Et en effet, qu'est-ce qu'une éternité qui commence? Nous avons certainement existé avant cette vie, bien que nous en ayons perdu le souvenir. Ce raisonnement, dont j'ai aujourd'hui de la peine à retrouver le fil, me paraissait alors tout à fait neuf et clair. Il me plut tant que je résolus de l'exprimer par écrit. Je pris une feuille de papier. Il me vint aussitôt une telle abondance d'idées que je dus me lever et marcher par la chambre. En approchant de la fenêtre, mon attention fut attirée par le cheval du tonneau à eau, que le cocher était en train d'atteler, et toutes mes pensées se concentrèrent sur la solution de ce problème. Quand le cheval crèvera, son âme ira-t-elle dans le corps d'un animal ou dans celui d'un homme? À cet instant, Volodia traversa la chambre. Il sourit de mon air absorbé, et ce sourire suffit pour me faire comprendre que je ne pensais qu'à d'affreuses bêtises. Je n'ai raconté ce détail, qui m'est resté par hasard dans la mémoire, que pour donner au lecteur une idée de la nature de mes méditations à cette époque. De tous les systèmes philosophiques, aucun ne me séduisait autant que le scepticisme. Pendant un temps, il me conduisit à un état voisin de la folie. Je me figurais qu'en dehors de moi, il n'existait rien ni personne dans le monde, que les objets n'étaient pas des objets, mais des apparences évoquées par moi durant le moment où je leur prêtais attention, évanouis dès que je cessais d'y penser. En un mot, je croyais avec Schelling que les objets existent non par eux-mêmes, mais par leur relation avec le moi. Il y avait des minutes où, sous l'influence de cette idée obsédante, j'arrivais à un tel degré d'égarement que je regardais brusquement derrière moi, dans l'espoir d'apercevoir à l'improviste le néant, là où je n'étais pas. Ô esprit humain, pauvre pitoyable ressort de l'activité morale! mon faible esprit ne pouvait pénétrer l'impénétrable, et je perdais l'une après l'autre, dans ce travail accablant, des certitudes auxquelles je n'aurais jamais dû toucher pour le bonheur de ma vie. De toute cette grande fatigue intellectuelle, je ne recueillis rien, excepté une agilité d'esprit qui affaiblissait en moi la force de la volonté, et une habitude d'incessante analyse morale qui était toute fraîcheur à mes sensations et toute netteté à mes jugements. Les idées abstraites sont le produit de la faculté que possède l'homme d'avoir conscience de l'état de son âme à un moment donné et d'en garder mémoire. Mon penchant pour la réflexion abstraite donna à ma conscience une acuité maladive telle que souvent, en pensant à la chose la plus simple, je me mettais à analyser ma propre pensée. Je me perdais dans cette analyse sans issue. Je ne pensais plus à la question qui avait été mon point de départ, mais je pensais ceci. À quoi est-ce que je pense? Et je me répondais. Je pense, à quoi est-ce que je pense? Et maintenant? Maintenant, je pense que je pense, à quoi est-ce que je pense? Et ainsi de suite. Mon esprit commençait à perdre son équilibre. Cependant, les découvertes philosophiques que je faisais flattaient au plus haut point mon amour-propre. Je me figurais souvent être un grand homme, découvrant des vérités nouvelles pour le bien de l'humanité tout entière, et je contemplais de haut les autres mortels, avec une orgueilleuse conscience de ma valeur. Mais, chose étrange, quand je me trouvais en face de ces mêmes mortels, il n'en était pas un qui ne m'intimida. Et plus je me plaçais haut dans ma propre opinion, moins j'étais capable d'affirmer devant les autres le sentiment que j'avais de ma propre valeur. Ou seulement de ne pas être rempli de honte à chaque mot que je disais et à chaque mouvement que je faisais.